Cette deuxième année, l'ambiance était différente à la Maison Blanche. Non parce que nous prenions les choses plus à la légère, mais chaque journée nous rappelait à sa manière la chance que nous avions de participer à l'histoire en train de s'écrire. Et nous ne relâchions pas non plus nos efforts. Pour un observateur extérieur, les réunions pouvaient peut-être paraître un peu plus détendues, car chacun commençait à mieux connaître les autres et à maîtriser son poste et ses responsabilités. Mais malgré les plaisanteries, personne n'oubliait les enjeux et l'obligation d'exécuter même les tâches les plus ordinaires avec une exigence absolue. Je n'ai jamais eu besoin de dire à qui que ce soit de s'y mettre ou d'en faire un peu plus. La crainte de ne pas se montrer à la hauteur, d'être une source de déception pour moi, pour les collègues ou pour les électeurs qui comptaient sur nous, motivait les équipes bien plus que n'auraient pu le faire mes discours. Tout le monde manquait de sommeil en permanence. Il était rare que les conseillers principaux travaillent moins de 12 heures par jour, et ils revenaient presque tous bosser durant le week-end. Contrairement à moi, ils habitaient à plus d'une minute de leur lieu de travail et ne disposaient pas d'un bataillon de chefs, valets, majordomes et assistants pour faire les courses et la cuisine, passer au pressing ou emmener les enfants à l'école. Les célibataires le restaient plus longtemps qu'ils ne l'auraient souhaité. Les personnes qui avaient la chance de vivre en couple pouvaient se reposer sur un conjoint, débordé et délaissé, ce qui engendrait le type de tension domestique que Michel et moi ne connaissions que trop bien. Les parents rataient les matchs de foot et les spectacles de danse de leur progéniture. Ils rentraient trop tard pour coucher leurs nourrissons. Les personnes qui, comme Ram et Axe, avaient refusé de perturber leur famille en la faisant déménager à Washington, ne voyaient presque jamais leurs conjoints ni leurs enfants. Personne ne s'en plaignait ouvertement. Chacun savait à quoi il s'exposait en intégrant le gouvernement. Concilier travail et vie privée ne faisait pas partie du contrat, et vu l'état de l'économie et du monde, la charge de travail n'était pas près de diminuer. Tout comme les athlètes ne parlent pas des blessures qui les tracassent dans les vestiaires, les membres de notre Maison Blanche avaient appris à souffrir en silence. Mais les effets cumulés de l'épuisement, combinés à une opinion publique de plus en plus hostile, une presse impitoyable, des alliés désabusés et une opposition qui avait à la fois l'intention et les moyens de transformer toutes nos actions en galères interminables, usaient les nerfs et exacerbaient les tensions. J'ai commencé à entendre des plaintes dues aux emportements de Ram lors des réunions matinales, des allégations selon lesquelles Larry excluait certaines personnes des discussions de politique économique, des rumeurs insinuant que plusieurs collaborateurs s'étaient sentis floués, que Valérie profite de sa proximité avec Michel et moi pour contourner diverses procédures en vigueur à la Maison Blanche. Des conflits éclataient entre de jeunes collaborateurs comme Dennis et Ben, habitués à me soumettre des idées de manière informelle avant de les injecter dans le circuit normal, et Jim Jones, mon conseiller à la sécurité nationale, qui était issu d'une culture militaire où les chaînes de commandement sont inviolables et où les subordonnés restent à leur place. Au sein de mon gouvernement non plus, les frictions ne manquaient pas. Si Hillary, Tim Geithner, Robert Gates et Eric Holder captaient le plus clair de mon attention du fait de leur poste, d'autres accomplissaient un travail inestimable sans que personne leur tienne la main. Tom Vilsack, le secrétaire à l'agriculture et ancien gouverneur énergique de l'Iowa, utilisait l'argent du Recovery Act pour impulser de nouvelles stratégies de développement dans les zones rurales démunies. Hilda Solis, la secrétaire au travail, œuvrait avec son équipe pour que les salariés à faible revenu puissent se faire payer plus facilement les heures supplémentaires qui leur étaient dues. Mon vieil ami Arne Duncan, ancien inspecteur des écoles à Chicago et désormais secrétaire à l'éducation, menait la charge pour hausser le niveau des établissements les moins bien classés, même lorsque cela lui attirait les foudres des syndicats d'enseignants, qui se méfiaient à juste titre de tout ce qui pouvait se traduire par des tests supplémentaires imposés aux élèves, et des militants conservateurs, pour qui tout ce qui s'apparentait à un programme scolaire commun était un complot gauchiste visant à endoctriner leur progéniture. Malgré tous ces succès, le labeur quotidien des institutions fédérales ne ressemblait pas toujours au rôle plus prestigieux, conseiller et confident du président, visiteur régulier de la Maison Blanche, que s'étaient imaginé certains. À l'époque de Lincoln, le président s'appuyait exclusivement sur son gouvernement pour dicter ses politiques. Le personnel de la Maison Blanche, réduit au minimum, assurait principalement sa correspondance et ses besoins privés. Mais à l'époque moderne, l'administration fédérale s'étoffant, les présidents successifs avaient cherché à centraliser le processus décisionnaire sous un seul toit, augmentant énormément le nombre et l'influence du staff de la Maison Blanche. En parallèle, les membres du gouvernement, devenus de plus en plus spécialisés et désormais occupés à gérer des domaines immenses, n'avaient plus le temps de rebattre les oreilles du président. Cette réorganisation du pouvoir se traduisait dans mon emploi du temps. Si Ram ou Jim Jones me voyaient presque tous les jours, Hillary, Tim et Gates étaient les seuls avec qui j'avais des réunions hebdomadaires dans le bureau ovale. Quant aux autres secrétaires, ils devaient se battre pour décrocher un rendez-vous, sauf lorsqu'un sujet impliquant leur département devenait une priorité de la Maison-Blanche. Les réunions du gouvernement au grand complet, que nous essayions de tenir une fois par trimestre, étaient l'occasion d'échanger des informations, mais elles étaient trop pesantes pour permettre de faire avancer les dossiers. Réussir à faire tenir tout le monde dans la salle du conseil était déjà un casse-tête en soi, et certains devaient se glisser de biais entre les imposants fauteuils en cuir. Dans une ville où la proximité géographique et la capacité à accéder au président étaient considérés comme des indicateurs d'influence, raison pour laquelle les conseillers aguerris convoitaient davantage les bureaux de l'aile ouest, étroits, sombres et infestés de rongeurs, que les espaces confortables du bâtiment Eisenhower de l'autre côté de la rue, certains membres du gouvernement n'ont pas tardé à se sentir négligés et placardisés, relégués en marge de l'action et livrés aux caprices des conseillers de la Maison-Blanche, souvent plus jeunes et moins expérimentés qu'eux. Aucun de ces problèmes n'était propre à ma présidence, et je dois saluer mon gouvernement et tout le staff d'avoir su rester concentré alors que l'environnement de travail se durcissait. À de rares exceptions près, nous avons réussi à éviter les conflits ouverts et les fuites continuelles d'informations qui avaient marqué certaines présidences antérieures. Sans la moindre exception, nous avons évité les scandales. Dès le début de mon mandat, j'ai clairement établi que je n'admettrais aucun écart moral, et les personnes à qui cela posait problème n'ont pas été retenues pour travailler avec nous. En outre, j'ai nommé un homme que j'avais connu pendant mes études de droit à Harvard, Norm Eisen, au poste de conseiller spécial du président à la déontologie et à la moralisation du gouvernement, afin de garder tout le monde dans les clous, moi compris. Enjoué et pointilleux, avec des traits anguleux et le regard fixe d'un fanatique, Norm était parfait pour le poste, le genre de personne à savourer son surnom bien mérité de « Dr. No ». Lorsque quelqu'un lui a demandé un jour à quel type de conférence le personnel gouvernemental pouvait se rendre, sa réponse a été aussi lapidaire que pertinente. « Si ça a l'air sympa, c'est non. » Cela étant, parmi les choses que je ne pouvais pas déléguer, il y avait le moral des troupes. Je m'efforçais d'être généreux dans mes compliments et mesuré dans mes critiques. Pendant les réunions, je mettais un point d'honneur à recueillir tous les points de vue, même ceux des plus jeunes. Les petits détails avaient aussi leur importance. Je veillais par exemple à apporter moi-même un gâteau pour l'anniversaire d'un collaborateur ou à prendre le temps d'appeler les parents d'un autre pour leur anniversaire de mariage. Parfois, lorsque j'avais quelques minutes à moi, je me promenais dans les étroits couloirs de l'aile ouest et poussais la porte des bureaux pour demander aux gens comment allait leur famille, sur quoi ils travaillaient et s'ils voyaient des points que nous pouvions améliorer. Ironiquement, un aspect de la gestion de mes équipes sur lequel j'ai été trop longtemps pris en défaut est l'attention prêtée aux femmes et aux personnes de couleur. J'étais depuis longtemps convaincu que plus les points de vue sont nombreux autour d'une table, plus l'organisation est performante, et je me targuais d'avoir recruté le gouvernement le plus diversifié de l'histoire. De même, notre Maison Blanche regorgeait de personnes talentueuses d'origine afro-américaine, hispanique ou asiatique, ainsi que de femmes. Melody Barnes, responsable du Conseil de politique intérieure, Mona Sutphen, sous-directrice de cabinet, Patrick Gaspard, directeur des affaires politiques, Cecilia Munoz, directrice des affaires intergouvernementales, Chris Liu, secrétaire général de la Maison-Blanche, Lisa Brown, secrétaire, et Nancy Sutley, directrice du Conseil à la qualité environnementale, toutes et tous ont été exemplaires dans leurs fonctions et ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration de nos politiques. Et nombre de ces personnes estimées pour leurs conseils sont devenues de bons amis. Pour les membres de mon gouvernement, qui n'étaient pas des hommes blancs, l'adaptation à leur lieu de travail n'a pas été un problème. Dans leur service, ils étaient au sommet de la chaîne, et c'était les autres qui s'adaptaient à eux. En revanche, il est apparu que, dans le staff de la Maison-Blanche, les femmes et les personnes de couleur devaient faire face, à des degrés divers et à des moments différents, aux questions, agacements et doutes lancinants que subissaient leurs homologues dans d'autres contextes professionnels, aussi bien les open space des grandes entreprises que les départements des universités. Est-ce que Larry a rejeté ma proposition devant le président parce qu'il pensait qu'elle n'était pas aboutie, ou parce que je ne me suis pas assez imposé, ou bien parce qu'il prend les femmes moins au sérieux que les hommes? Est-ce que Ram a consulté Axe et pas moi parce qu'il avait besoin d'une mise en perspective politique, ou parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ou bien parce qu'il est moins à l'aise avec les Noirs? Est-ce que je dois en parler? Est-ce que je suis trop sensible? Étant le premier président afro-américain, j'étais particulièrement attaché à faire régner l'égalité. Pourtant, quand je réfléchissais aux dynamiques de mon équipe, j'avais tendance à moins tenir compte du genre et de l'origine que des frictions qui apparaissent inévitablement lorsqu'un groupe de personnes brillantes se retrouve sous pression dans un espace clos. Cela découlait peut-être du fait que tout le monde se montrait irréprochable en ma présence. Quand j'entendais parler de problèmes entre employés, c'était généralement de la bouche de Pete ou de Valérie, à qui les gens semblaient se confier plus facilement pour des raisons d'âge et de tempérament. Je savais que des personnalités bouillonnantes comme celles de Ram, Axe, Gibbs et Larry, sans même parler de leur emportement dès lors qu'il s'agissait de prendre des positions fermes sur des questions aussi clivantes que l'immigration, l'avortement et les relations entre police et minorités, pouvaient être perçues différemment par les femmes et les personnes de couleur au sein de notre équipe. D'un autre côté, ces types étaient combatifs avec tout le monde, et même entre eux. Moi qui les connaissais bien, je me disais que, si tant est qu'il soit possible de ne pas être cousu de préjugés quand on a grandi aux États-Unis, ils passaient le test. Puisque rien de choquant ne me revenait aux oreilles, je me disais qu'il me suffisait de montrer l'exemple en traitant tout le monde avec courtoisie et respect. Les histoires d'égo froissés, les conflits territoriaux et les vexations pouvaient se régler sans moi. Mais vers la fin de notre première année, Valérie a demandé à me voir et m'a fait part d'un mécontentement grandissant parmi les femmes les plus chevronnées de la Maison Blanche. C'est seulement là que j'ai été confronté à certains de mes angles morts. J'ai appris qu'au moins une de ces femmes avait fondu en larmes à cause de reproches formulés en réunion. Lassées de voir leur point de vue ignoré, plusieurs autres avaient tout simplement cessé de prendre la parole. « Je crois que les hommes ne se rendent même pas compte de leur attitude », m'a dit Valérie. « Et pour les femmes, ça fait partie du problème ». Préoccupé, j'ai invité une dizaine de femmes du staff à dîner avec moi pour leur donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Le dîner a eu lieu dans l'ancienne salle à manger familiale, au rez-de-chaussée du bâtiment historique, et peut-être en raison du raffinement du cadre, des hauts plafonds, des majordomes en livrée et de la porcelaine de la Maison Blanche, il leur a fallu un moment pour réussir à s'ouvrir à moi. Leur point de vue n'était pas uniforme, et aucune d'elles n'avait eu à subir d'attitude ouvertement sexiste. Mais en écoutant ces femmes compétentes pendant plus de 2 heures, j'ai compris que certains schémas de comportement, qui étaient une seconde nature pour plusieurs hommes de mon équipe, crier ou jurer pendant un débat, dominer une conversation en interrompant constamment les autres, surtout les femmes, reformuler en se le réappropriant un argument avancé une demi-heure plus tôt par une autre personne, souvent une femme, leur avaient donné le sentiment d'être rabaissés et ignorés et ôté l'envie d'exprimer leurs opinions. Et bien que la majorité de ces femmes m'aient dit apprécier que je sollicite leur avis et ne pas douter de mon respect pour leur travail, leurs histoires m'ont forcé à me regarder en face et à me demander dans quelle mesure mon penchant machiste, ma tolérance à une certaine ambiance de vestiaire pendant les réunions, le plaisir que je retirais d'une bonne joute verbale, avait pu concourir à leur malaise. Je ne peux pas affirmer que nous avons résolu toutes les questions soulevées ce soir-là. C'est difficile de détricoter le patriarcat en un seul dîner, dirais-je par la suite à Valérie. Tout comme je ne peux pas assurer que mes discussions régulières avec les membres noirs, hispaniques, asiatiques et amérindiens de l'équipe aient garanti qu'ils ne se sentent jamais exclus. Mais je sais que lorsque j'ai parlé avec Ram et les autres hommes de ce que ressentaient leurs collègues femmes, ils sont tombés des nues, ont fait amende honorable et promis de mieux se tenir. De leur côté, les femmes ont paru bien intégrer ma suggestion de s'affirmer davantage. Si quelqu'un essaie de vous couper la parole, dites que vous n'avez pas terminé. Ce n'était pas uniquement pour le bien de leur santé mentale que je leur avais dit cela, mais parce qu'elles avaient des connaissances et des idées pertinentes qui m'étaient essentielles pour faire convenablement mon travail. Quelques mois plus tard, alors que nous sortions de l'aile ouest pour aller au bâtiment Eisenhower, Valérie m'a dit qu'elle avait noté des progrès dans les rapports entre les employés. Puis elle m'a demandé « Et toi, tu tiens le coup ?» Je me suis arrêté au sommet des marches du bâtiment et j'ai cherché dans les poches de ma veste les notes pour la réunion à laquelle nous nous rendions. « Ça va », ai-je répondu. « Tu es sûr ?» a insisté Valérie. Elle scrutait mon visage comme un médecin qui examine un patient. J'ai trouvé ce que je cherchais et nous nous sommes remis en marche. « Certain, pourquoi ? Tu me trouves différent ?»« Pas du tout. C'est justement ça que je ne comprends pas.